après Le Prince des Parquets Salons publié en 2013, Jean-Claude Fournier publie Hollywood sur chair aux éditions Marivol et il est avec nous pour en parler ce soir. Jean-Claude, bonsoir, est-ce que vous allez bien ?
Bonsoir, je vais très bien.
Alors qu'est-ce qui vous amène par chez nous en Creuse aujourd'hui ?
Bien, d'abord pour participer à cette émission et puis ça tombe dans un planning que j'ai puisque je dois être samedi au Leclerc de Guéret et dimanche à Gargilès pour un salon du livre.
Votre second roman Hollywood sur chair a été publié en octobre 2015, c'est ça ?
Oui.
Vous avez publié le premier roman Le Prince des Parquets Salons en 2013. Comment on devient écrivain ? Qu'est-ce qui fait qu'on passe le pas et qu'on se met à écrire son premier roman ?
Alors, pour ce qui me concerne, je peux me qualifier comme un vieil jeune auteur, puisque le premier roman, je l'ai écrit à plus de 70 ans. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, contrairement peut-être à d'autres auteurs, d'urgence à écrire. Et puis il y avait la vie, le travail. Il y avait quand même cette envie d'écrire sur ma jeunesse, sur l'époque que j'ai vécue, sur la région, que je remettais à plus tard et finalement c'est après la retraite que ça s'est concrétisé.
Est-ce qu'il y a eu un travail de maturation inconsciente ?
Bien sûr. Par exemple, Le Prince des Parquets Salons, le premier, je l'avais envisagé comme une nouvelle qui ne dépasserait pas une dizaine de pages et puis j'ai découvert en écrivant ce que disent certains écrivains, alors que je n'y croyais pas auparavant, c'est que en se mettant à écrire, on est un petit peu emporté par le flot de la conscience qui revient et ça s'est étoffé jusqu'à devenir un roman.
Alors, est-ce que vous avez commencé directement par un roman, Le Prince des Parquets Salons, ou est-ce que vous vous êtes d'abord frotté aux nouvelles ?
J'ai toujours écrit des petits poèmes, des petits vers mirliton d'étudiants que je garde encore.
Mais c'est quoi ce que vous appelez un vers mirliton d'étudiant ?
De carabins ou d'étudiants ou de lycéens qui célèbrent l'amour avec une jeune fille ou la révolte contre le monde des adultes. J'ai écrit aussi quelques nouvelles, dont l'une d'entre elles a obtenu justement un prix en Île-de-France, décerné par les salles de cinéma Art et Essai. Et c'est à partir de là, je crois, que j'ai eu l'idée du titre pour ce second opus-là.
Eh bien, vous m'amenez justement à cette question. Hollywood sur chair, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce titre ?
Oui, eh bien, il s'agit bien entendu, comme pour Le Prince des Parquets Salons, les deux titres d'oxymores, c'est-à-dire d'expressions où les deux termes ne vont pas, on n'en veut pas ensemble.
S'opposent même.
Voilà. Hein. Hollywood, alors que je parle essentiellement de ma ville natale de Montluçon, qui est une ville industrielle, ça n'a rien de glamour, ça n'a rien d'Hollywood.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas comparer Montluçon à Los Angeles ?
Pas vraiment, il n'y règne pas la même atmosphère. Et surtout à cette époque, c'était quand même une petite ville de province un peu assouvie, qui était dynamique encore à l'époque, qui commençait à être touchée un peu par la désindustrialisation qui allait venir. Voilà. Et le Cher, bien, le Cher passe à Montluçon, donc cette opposition. Et le Cher non plus n'est pas
comparable à la Californie.
Voilà, ni à un fleuve célébré dans la littérature.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce second roman Hollywood sur chair sans dévoiler l'intrigue, en tout cas les rebondissements, s'il y en a ?
Déjà avec Hollywood, on a un petit peu un début de la réponse. Pourquoi Hollywood ? Parce que le personnage principal, qui n'a pas de nom dans le roman, est le petit-fils d'une dame qui était femme de ménage au principal cinéma de la ville, le Rex, dans ces années-là, et qui, à ce titre, le jeudi, puisque c'est le jeudi qu'il n'y avait pas école à l'époque, eh bien, il consommait tout ce qui sortait, et principalement les films américains, le cinéma hollywoodien était très bien représenté, évidemment, les péplums, les westerns, les films de guerre, quelques films français aussi dans le cinéma, mais dans ce cinéma en particulier, il y avait surtout des films américains.
Voilà. Ça, c'est pour l'importance du cinéma. C'est quoi les autres grands axes du roman ?
Alors, les autres grands axes du cinéma, c'est l'itinéraire d'un enfant du peuple, de famille modeste, qui fait des études, qui justement rêve à partir de cette fréquentation assidue des salles obscures, de devenir, sinon metteur en scène, au moins critique de cinéma par la suite, en tout cas qui a tendance à confondre le rêve et la réalité. Plus jeune, vers 15 ans, il a tendance à se prendre pour James Dean, pour Marlon Brando, ces héros qu'il voit... plaire à toutes les filles, évidemment, et donc ça agit sur lui. Voilà.
Et dans la réalité, il ne devient pas un rebelle, il devient plutôt un professeur.
Voilà, mais certains professeurs peuvent être des rebelles, hein, mais non, je ne me qualifierai pas comme un professeur rebelle par la suite, mais à l'époque, oui, il y avait... D'abord, il faut dire que la vocation tarde à venir. J'ai voulu prendre l'un des contre-pieds que je prends par rapport aux images d'Épinal qui nous sont données sur cette époque, c'est l'image d'Épinal du hussard noir de la République qui a eu la vocation tout de suite. Bon, là, ça prend du temps à venir, disons. Voilà.
Vous l'avez dit, le personnage principal n'a pas de nom, j'imagine que c'est un choix, vous l'avez
fait exprès.
N'a pas de nom, il n'est pas nommé.
Il n'est pas nommé,
pourquoi?
Oui. Alors, c'est en partie en raison du choix de point de vue narratif. Bon, il y a un narrateur qui n'est pas ce personnage principal, qui lui ressemble un petit peu, mais qui ne l'est pas. Et puis, la parole, il y a un jeu dans tout le roman entre ce narrateur principal qui donne parfois la parole au personnage principal et même à un moment à un autre personnage. Ceci notamment pour pouvoir faire parler les gens du cru, notamment de la Creuse et de l'Allier, c'est un peu les mêmes expressions, dans la langue locale. Car l'un des objectifs de mes deux romans, en fait, au départ, c'est de retrouver cette langue de l'enfance, cette langue populaire, et de la faire cohabiter notamment avec un français plus soutenu, pour créer une ironie, une distance entre moi, l'auteur, et les personnages du roman, notamment.
Si on fait un petit aparté, qu'on revient 2 ans en arrière, le prince des parquets salons, le nom du personnage principal est un peu particulier.
Il s'appelle Côtelette, le père est boucher, et donc il a récolté ce surnom ridicule qui lui colle à la peau et dont il ne veut pas, qui est un handicap réel quand il s'agit d'aborder des filles. Quand les copains vous appellent Côtelette en face de filles, bon, c'est pas très porteur, si vous voulez.
Ce qui fait que le premier personnage de votre premier roman s'appelle Côtelette et le personnage de votre second roman n'a pas de nom, peut-être un nom dans le troisième roman, on verra ça un petit peu plus tard.
Oui.
On l'a dit, il y a deux thèmes pour le moment dans ce roman, Hollywood sur chair, le cinéma, on l'a compris, l'enseignement. Je vais prendre une citation du roman.
Oui.
N'étais-je pas le descendant direct d'une illustre lignée de paysans un peu plus aisés que les plus pauvres des pauvres dans la région d'Auzance, près de Maronchal, les Brandons? Est-ce que l'ascension sociale, c'est aussi un des thèmes forts de ce roman?
Bien sûr, une ascension, un ascenseur social qui fonctionne, évidemment, on est dans les 30 glorieuses, il serait sot de le nier, mais qui fonctionne quand même mieux pour certains que pour d'autres, comme l'ont bien montré les sociologues Bourdieu et Passeron dans Les Héritiers et tout ça. Et le personnage principal, appartenant à une classe sociale inférieure, il faut bien le dire, par exemple, n'est pas orienté vers le lycée. Ces instituteurs, croyant bien faire, en fait, ils ont bien fait. Ils ont bien fait ici à y réfléchir, mais croyant ma faire, ne l'orientent pas vers le lycée parce qu'ils ont, affaire à un élève qui est bon en classe, mais qui n'est pas brillant et dont ils pensent que, vu son origine sociale, il n'ira pas au-delà du brevet. Donc à l'époque, il existait l'ancêtre du collège, c'était le cours complémentaire. Dans lesquels on orientait ces élèves. Mais à l'issue de ce cours complémentaire, la troisième, on pouvait passer le concours d'école normale d'instituteur qui, lui, vraiment était un véritable ascenseur social.
Ce qui fait que sans passer par le lycée, il finit par rejoindre quand même l'école normale et par devenir instituteur.
Professeur, et même dans l'administration par la suite. Mais tout en ayant ce regret de n'avoir pu faire quelque chose dans le cinéma.
Alors, il y a ce regret de ne pas pouvoir faire quelque chose dans le cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, chez ce personnage, le fait qu'il ne réalise pas qu'il bénéficie de l'ascenseur social quelque part ?
Bien, c'est vrai que...
Une sorte de réussite un peu triste.
Voilà, mais mes personnages, que ce soit dans le premier roman ou dans le deuxième, effectivement, ce sont des adolescents, ils ont le nez dans le guidon, ils ont leurs problèmes d'adolescents à résoudre, il y a... la vie n'est pas si rose. En tout cas, eux n'ont pas l'impression de vivre l'époque formidable que l'on célèbre aujourd'hui. Les filles, pour une raison très simple, c'est que les moyens de contraception sont inexistants, elles risquent de tomber enceintes et effectivement elles se méfient des beaux parleurs. Et ce qui pourrit la vie des filles, par ricochet évidemment, pourrit la vie des éventuels séducteurs. Et puis n'oublions pas que ce roman se termine en 63, le premier en 62, la guerre d'Algérie se termine en 62. Jusqu'alors, on a eu peur d'aller en Algérie. Donc tout ça fait que les Trente Glorieuses ne sont pas perçues comme telles quoi, à l'époque. En tout cas, pas par les personnages.
Pour rester dans le début de ces années 60, de ces Trente Glorieuses, on reste sur l'ascension sociale. Le personnage principal, on l'a dit, il est bon élève au collège, mais il est orienté vers l'école normale. Est-ce que l'école normale, c'était une évidence à l'époque pour sortir un élève de ses origines modestes dans le monde de l'enseignement ?
Oui, en tout cas, c'était une évidence pour qui avait été orienté, non pas au lycée, mais au cours complémentaire. À l'issue en troisième, on passait tous les concours de la fonction publique, et le concours de l'école normale était le plus prestigieux pour qui était au cours complémentaire. Évidemment, les élèves de la bourgeoisie orientés vers le lycée, eux aspiraient tout de suite à aller en faculté et à faire et avoir des orientations différentes.
Alors, on l'a bien compris, le personnage principal de ce roman Hollywood sur chair, personnage qui n'a pas de nom, c'est un petit peu vous.
Oui, bien sûr. C'est un peu moi, mais ce n'est pas moi non plus. C'est assez autobiographique, je l'admets, je le confesse.
Alors revenons au cinéma, à la place importante du cinéma dans ce roman. On le disait, c'est un peu la réalité contre le rêve qui était vendu à l'époque par le cinéma et principalement par le cinéma américain. Qu'est-ce que vous retenez du cinéma de l'époque ?
Alors, du cinéma américain, eh bien vraiment, je pourrais dire avec mes yeux d'enfant d'abord, d'adolescent. Ensuite, le glamour. C'est à cette époque, par exemple, que la couleur devient le technicolor, que les premiers écrans en cinémascope arrivent sur l'écran. Je me souviens en particulier des grands péplums. Le premier péplum que j'ai vu à ce fameux cinéma Le Rex, c'était La Tunique, l'histoire du linceul du Christ, en fait, tel qu'il est revisité par Hollywood, bien sûr. Il y avait aussi les films de guerre, notamment avec Marlon Brando, Le Bal des Maudits, et puis un très beau film avec Sidney Poitier et un acteur américain dont j'oublie le nom. Qui relate la révolte des Mao Mao au Kenya. Vous voyez, un blanc et un noir élevés ensemble dans l'enfance et puis se séparant au moment où les Africains demandent leur indépendance, ne font pas que la demander d'ailleurs, sont obligés d'entrer en guérilla pour l'obtenir. Et aussi le souvenir de certaines comédies musicales, et notamment de la belle Esther Williams qui évoluait dans l'onde pure, dans des ballets nautiques, et qui fut peut-être un de mes premiers éveils érotiques, quoi, si l'on peut dire.
Vous avez cité Marlon Brando, James Dean. Je ne crois pas avoir entendu de nom d'actrice féminine parmi les...
Ah ben Nathalie Wood avec Marlon Brando dans La Fureur de Vivre. D'ailleurs, le titre anglais de La Fureur de Vivre, c'est Rebels Without a Cause. Et ça traduit bien un petit peu ce que j'étais un peu à l'époque, un rebelle sans véritable raison de l'être et qui avait tendance à ne pas trop savoir pourquoi il était en colère après la société et le monde entier.
Mais le titre, la traduction, c'est pas une traduction d'ailleurs, mais le titre en français, je le trouve plus percutant. James Dean, Marlon Brando, Natalie Wood, c'est les stars des années 60. Est-ce que d'après vous, il y a encore des stars aujourd'hui en 2016 équivalentes?
Il y a des people, oui. Oui, quand même, il y a quand même des. Si vous prenez Nicole Kidman, par exemple, ou d'autres, Brad Pitt, ce sont des stars, incontestablement.
C'était quoi l'ambiance dans les cinémas dans les salles de cinéma des années 60?
Alors l'ambiance, je ne sais pas si c'était vraiment la sortie du samedi. Il y avait certains films à épisodes, les salles étaient pleines. Le jeudi était plutôt consacré aux rendez-vous galants, c'est-à-dire c'est là qu'on emmenait nos petites amies pour les bécoter généralement dans le noir, profiter de l'émotion que procurait le film pour évidemment flirter, quoi.
On peut rappeler que le cinéma à l'époque c'est vraiment quelque chose de très important dans le sens où il y a quoi en 62? Il y a une ou deux chaînes de télévision, il n'y a pas évidemment pas de magnétoscope.
Ah non, en 62 il n'y a qu'une chaîne de télévision à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais la première chaîne avec l'ORTF, oui.
Et évidemment pas de lecteur de DVD, pas de... Ah,
bien sûr, rien de ça. Il y avait, juste avant la télévision, cependant il y avait la radio, on suivait les émissions célèbres comme Zappy Max, le Radio Crochet... en revanche, à la télévision, il y avait de bonnes émissions, notamment 5 colonnes à la une, qui était une ouverture sur le monde formidable. Et puis en 54 ou en 56, je crois que c'est la première fois qu'on regarde la Coupe du Monde de football dans le café de la rue, puisque la télévision, personne ne l'avait, sinon les cafés, quoi. Voilà.
Pour en revenir au personnage principal de votre roman Hollywood sur chair, alors il est enseignant, il regrette...
Il devient enseignant, ouais. Il ne l'est pas pendant le roman, mais il va le devenir tout à la fin du roman. Alors, il est nommé dans un village de montagne, il se retrouve seul après avoir vécu l'insouciance d'un internat très libéral, un internat d'école normale qui ne ressemble pas aux internats de lycée de l'époque. Et bon, il se retrouve seul, il est bombardé dans la montagne bourbonnaise, un des coins les plus reculés du département de l'Allier.
Alors, il regrette de ne pas avoir la vie des personnages qu'on voit dans les films des années 60. Mais quand on est enseignant, est-ce qu'on peut ne pas être soit le héros, soit le méchant d'une salle de classe? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, surtout qu'à l'époque, la discipline était assez sévère. Hein. Les châtiments corporels existaient et nul n'aurait pensé à aller se plaindre à ses parents de ce que le maître nous avait infligé une gifle ou des punitions parfois très lourdes. Les instituteurs et les professeurs que j'ai eus étaient très sévères, mais on trouvait ça normal. On ne se révoltait pas contre ça, c'était un petit peu une fatalité.
Je rappelle que vos deux romans sont édités chez Marivaux dans la collection Les années 60. En plus du cinéma, qu'est-ce que vous retenez des années 60 en général ?
Bien, j'ai ce que j'en retiens. En tout cas, je retiens en partie cette insouciance, une insouciance de toute jeunesse, mais j'essaye de non pas de prendre le contre-pied des images d'Épinal qui nous sont données sur cette époque, mais en tout cas d'en donner une vision plus nuancée. Certes, il y a l'insouciance des 20 ans, la joie d'être jeune, de découvrir l'amour, mais il y avait aussi ces craintes, cette crainte d'une guerre possible. On nous parlait du péril jaune, par exemple, la bombe atomique, la rivalité entre les Américains et les Russes qui pouvaient déclencher un troisième conflit mondial, les guerres coloniales, notamment l'algérienne. Avant l'Algérie, c'était le Vietnam, évidemment. Tout ça créait une atmosphère qui n'était pas si joyeuse qu'on veut bien le dire aujourd'hui.
Ça, c'est l'atmosphère probablement au niveau national, voire même international. Est-ce que c'était la même chose, vous parlez de petites villes, est-ce que c'était la même chose à Montluçon et en Creuse, puisqu'une partie de votre roman se passe aussi en Creuse? Ou est-ce qu'il y avait un regard un peu différent par rapport à ce qui se passait vu de Paris?
ça pouvait paraître un peu plus lointain que ça ne peut paraître les événements internationaux aujourd'hui, mais on y pensait quand même. Et puis, n'oubliez pas qu'il y avait la radio, que la télévision, les gens étaient au courant quand même. C'est-à-dire, et dans une ville industrielle comme Montluçon, qui était une ville très prolétaire, le Parti communiste était très important. Et par exemple, les événements de Hongrie, c'est-à-dire la révolte hongroise contre le système communiste. Il y avait beaucoup de réfugiés. On parle de réfugiés aujourd'hui, mais je me souviens que la municipalité de Montluçon, qui était socialiste à l'époque, un peu rival du Parti communiste qui, lui, était fort, avait invité des réfugiés hongrois et les avait installés dans la caserne. Et ces réfugiés hongrois étaient le thème de toutes les conversations dans les familles. Alors, dans une famille, si vous aviez un communiste et quelqu'un qui était plutôt gaulliste, évidemment, pour le gaulliste, ces Hongrois étaient des réfugiés qui avaient fui le diable rouge communiste, et pour les communistes, c'était des contre-révolutionnaires, des assassins, des voyous. Vous voyez que Montluçon n'était pas protégé, finalement. Je suppose que c'était la même chose dans d'autres petites villes françaises de l'époque.
Justement, parlons un petit peu de la Creuse. Une partie de votre roman se passe en Creuse. Quel est votre intérêt pour la Creuse, en fait ? Qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce qui se passe en Creuse dans le roman ?
Alors, ce que j'ai vécu en Creuse, c'est essentiellement la vision, en tout cas, les premiers chapitres sur la Creuse. C'est une vision, c'est celle d'un enfant, d'une Creuse assez triste, assez austère, puisque j'allais dans la branche familiale de ma famille, dans la région d'Auzance, à Lioux-les-Monges exactement, encore un petit peu, un mot encore plus reculé à Lioux-les-Monges, et j'y passais les vacances de la Toussaint, là où vivait, ou plutôt survivait, un vieil oncle qui avait gardé la ferme maternelle, et une tante aveugle, qui ne parlait que de ses voyages à Lourdes tous les ans, qui étaient très... Et puis on faisait le tour des cimetières. Et il n'y avait pas de petits copains pour jouer avec, donc c'est quand même une vision assez austère et assez triste.
On est loin du glamour américain.
On est loin du glamour américain, oui, effectivement. Mais là, il n'y avait pas de cinéma à Lioux-les-Monges, donc on ne pouvait pas y aller. Et ma relation avec la Creuse, c'est également cette vision de mon grand-père, qui en fait était un petit enfant naturel, que mon arrière-grand-mère a eu. Elle était employée dans une ferme, évidemment, le patron a dû la séduire, et quand la fermière s'est aperçue que le ventre de la petite serviteuse commençait à gonfler, bien elle a été mise dehors. Elle a dû élever son fils toute seule. Mon grand-père maçon de la Creuse, par la suite, après avoir fait le tour de France du maçon, le tour obligé, est venu s'installer dans le bassin industriel de l'Allier. Voilà comment... Mais la Creuse n'était pas loin de Montluçon, hein. La frontière est seulement à 15 km. Ensuite, avec mon père boucher qui allait chercher ses bêtes dans sa bétaillère du côté des Vaux-les-Bains. Et donc, j'ai bien connu cette Creuse de l'époque.
Est-ce que vous auriez envie de nous lire un passage d'Hollywood sur Cher, justement, qui concerne la Creuse ?
Alors, bon, si vous voulez, mais je vais plutôt choisir le passage de la Creuse, d'une Creuse plus contemporaine, qui est un peu plus gaie, celle-là. Hein. La Creuse que je parcours aujourd'hui est bien différente de celle que je connaissais lorsque j'y allais pour les vacances de Toussaint. Le bocage y est mieux entretenu, les maisons ont été retapées par des héritiers de la propriété ancienne, par des gens de la ville ou par des étrangers. Désormais, ce sont d'autres paysages que je découvre, des endroits où l'on fait la fête en été entre amis, où l'on va à la pêche, où l'on reçoit parfois des gens que l'on a connus dans des pays exotiques, ainsi que leurs petites amies ou femmes glanées au hasard des postes occupés dans les îles. Non loin de Loa, le village du Moutier d'Ain se compose essentiellement d'une rue principale aux maisons de pierre. Lorsque l'on se tient sur le pont trapu, enjambant la rivière, on ne peut imaginer que de tels événements, parler de la Révolution, qui est décrite, le Moutier d'Ain est décrit par Georges Sand dans son roman Nanon. On ne voit que l'eau qui glisse tranquillement en un murmure limpide sous les arches renflées. on aperçoit des bovins placides ruminer dans des prés à l'herbe haute et touffue. Ils semblent avoir été toujours là, simplement heureux d'être les acteurs immobiles de ce tableau. On croirait des figurants, insensibles, tout à la fois aux souffrances humaines passées ou aux petits bonheurs furtifs que les vacanciers semblent venir chercher ici. Et c'est une creuse plus heureuse que celle de l'enfant. J'ai voulu faire cohabiter ces deux creuses-là dans mon roman.
On entend souvent dire que c'est mieux avant. Pour vous, c'est pas forcément mieux avant.
Non. Non, pour moi en tout cas, dans la vision de l'enfant, c'était une creuse assez triste, oui.
Pour ce qui est du style, est-ce que vous avez... quels auteurs vous inspirent ?
Ah bien écoutez, j'ai des goûts littéraires très, très éclectiques.
Ce qui est plutôt une bonne chose. Hein.
Je vibre autant avec Proust qu'avec Cavana dans les Ruskov, par exemple, ou dans les Rital. Et d'ailleurs, mon style, je crois, ce qu'il caractérise, c'est aussi une oxymore littéraire, puisque j'essaye de faire cohabiter un français assez soutenu et le langage populaire de mes personnages qui ont recours à des expressions locales, qui sont à la fois creusoises, parfois, et bourbonnaises.
Oui, comme le faisait Cavana, comme vous venez de le dire, dans les Rital, justement, des expressions, j'en ai noté plusieurs. Oui. Rhabiller le gamin.
Alors, rhabiller le gamin, c'est très amusant. À Montluçon, si vous êtes au comptoir et que quelqu'un ne paye pas sa tournée, on va lui dire, quand est-ce que tu vas rhabiller le gamin ? Voilà, tout simplement. Tout le monde va comprendre dans le contexte.
Donc, rhabiller le gamin, c'est payer sa tournée.
Oui.
Ça me pèle dans le ventre.
Alors, ça me bèle dans le ventre, c'est une très belle
expression.
Ça me bèle et non pas ça me pèle.
Hein. Oui, d'accord. Ouais, oui.
Ça me bèle dans le vent, ça veut dire avoir très envie de faire quelque chose. Ma mère me disait, par exemple, quand on était à l'époque, on n'avait pas le droit d'aller se baigner avant une sieste de 3 heures. Et elle me dit, ça te bèle dans le ventre d'aller dans l'eau. C'est une très belle expression molissonnaise.
Et deux mots que j'ai retenus, le veson ou le vaison, je ne sais
le
pas.
Le veson, on dit le veson et le via.
Et le via.
Alors... Le veson et le via, il s'agit de deux spleens montluçonnais, des spleens champêtres, des blouses, des débouchures, si vous voulez. Alors, l'un est plus existentiel que l'autre. Le via, c'est plutôt un petit malaise que vous ressentez dans le ventre après avoir trop mangé de pâté aux pommes de terre et peut-être abusé de la petite piquette locale. Mais il peut y avoir quand même quelques effluves métaphysiques qui remontent. Le veson, lui, correspond plus au spleen baudelairien, vraiment. Il peut peser sur un couvercle et mon héros Côtelette, il faut bien dire, traîne son veson en bandoulière une partie de l'histoire du premier roman. Et le héros d'Hollywood sur chair aussi a sa dose de veson. Il faut dire que le veson est connu en Creuse aussi, mais peut-être pas dans toute la Creuse. Mais si vous allez du côté d'Auzance, eh bien les Creusois ont également le veson. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas le via. Voilà.
On vérifiera.
Voilà.
Vous l'avez dit, votre style, vous écrivez sur un principe d'oxymore. Je rappelle les titres des deux romans. Le Prince des Parquets Salons et Hollywood sur chair. À chaque fois, des mots ou des formules qui s'opposent. Vous aviez envie de faire du cinéma, vous avez été tenté par l'Institut des hautes études cinématographiques,
oui.
Vous avez été finalement enseignant, prof de français, prof d'anglais. Est-ce que cette envie d'écrire par oxymore, c'est parce que cette opposition existe toujours chez vous ou est-ce que vous êtes réconcilié avec votre parcours ?
Oui, je suis réconcilié avec mon parcours d'enseignant maintenant qui me propose ce métier m'a procuré de grandes joies, mais il y a toujours ce petit regret, ce petit veson de ne pas avoir été metteur en scène ou plutôt c'était plutôt critique de cinéma que j'aurais aimé faire et même d'avoir raté le coche à une époque dans les classes de terminale L littéraire. On a ouvert des options théâtre, des options cinéma. Certains de mes collègues ont fait une formation pour enseigner l'option cinéma. Et celle-là, je l'ai loupée parce que j'ai passé d'autres concours, mais j'ai regretté finalement de ne pas avoir fait ça.
En tant qu'enseignant, vous avez été professeur à Londres, professeur aux États-Unis, en Algérie, également en Nouvelle-Calédonie. Vous avez beaucoup voyagé, j'imagine que vous avez vécu beaucoup de choses à l'étranger. Pourquoi vous avez décidé d'écrire sur la région de Montluçon et pas sur ces différents pays ?
Ben, d'abord, rappelez-vous qu'il s'agit de mes deux premiers romans. Et les premiers romans, en général, sont très autobiographiques. C'est un retour un petit peu dans le liquide amniotique maternel. Bon, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Le troisième, lui, se passera à Londres et relatera en partie un épisode que j'ai vécu. En fait, le héros va vivre les événements de mai 68 à partir de Londres, sans pouvoir rentrer au pays, puisque la France est paralysée, il n'y a plus de transport en commun. Et un quatrième, que j'ai commencé à rédiger, relatera mon séjour en Algérie, puisque j'ai fait la coopération en Algérie de 83 en 86. Et là, vraiment, quand on était en Algérie, on a vu l'islamisme monter, les femmes et les filles qui se voilaient de plus en plus. Et j'ai pensé que c'était une expérience intéressante à relater, dans un contexte fictionnel, bien sûr. Hein, ça sera un roman aussi, ça ne sera pas un essai.
Prochain roman qui aura pour cadre Londres. Vous écrivez, vous avez un intérêt pour les Trente Glorieuses, des années 50 aux années 80. Vous êtes arrêté en 63 pour le moment.
Oui.
Qu'est-ce que vous retenez de 68, puisque vous êtes vraiment plongé dans cette époque? Oui. Est-ce qu'il y a un avant et un après mai 68?
Évidemment, forcément, ne serait-ce que pour les mœurs, et notamment la libération sexuelle, il est évident qu'il y a un avant et un après 68, parce qu'après 68 sont venus les moyens de contraception, sont venus un peu plus tard quand même l'avortement, mais d'une manière générale, toute la société, que ce soit de manière musicale, la littérature, les films, et puis les attitudes, la manière d'être des garçons et des filles ensemble, après 68, on a pu enfin tisser des relations d'égal entre filles et garçons. On n'a pas réglé tous les problèmes, bien sûr, entre hommes et femmes, mais c'est au moins, même, on avait des partenaires qui n'avaient plus besoin d'être séduites. Elles savaient séduire aussi, elles devenaient Amazon également, et ça a tout changé, bien entendu.
Alors, je rappelle que vous êtes publié aux éditions Marivol dans la collection des années 60, puisque vos romans se passent dans les années 60. Est-ce que vous écrivez à la main? Est-ce que vous tapez à la machine à écrire? Ou est-ce que vous tapez sur un clavier d'ordinateur?
Non seulement un clavier d'ordinateur. Je dirais même que j'ai appris une chose à l'armée essentielle. J'ai fait un stage de secrétaire, puisque j'étais un petit peu l'intello, et pour devenir secrétaire, et j'ai appris à taper avec mes 10 doigts. Donc le passage à l'informatique, notamment le traitement pour moi, a été très facile et naturel. Et je dirais même que pour un texte, disons de plus de 2-3 pages, je crois maintenant que je serais incapable de l'écrire à la main. Et quand je vois les manuscrits de grands écrivains avec tous ces alinéas, ces retours en arrière, je ne sais pas comment il faisait.
On a tellement pris l'habitude d'écrire sur un clavier qu'on a presque mal à la main maintenant quand on écrit à la main.
Tout à fait, oui.
Vous avez reçu le prix Daniel Bayon 2016 pour Hollywood sur Cher. Qu'est-ce que ça vous a fait?
Ça fait énormément plaisir, évidemment, parce que vous avez la reconnaissance de gens qui ne sont pas des amis et qui donc n'ont pas à vous faire de compliments parce qu'ils ont peur de vous choquer s'ils émettent quelques critiques. Surtout ce prix Daniel Bayon, il est décerné par la ville de Jaligny, la ville où l'écrivain René Fallet, je ne sais pas si c'est un écrivain, enfin, et deux de ses livres ont été portés à l'écran, La soupe aux choux avec De Funès et Claude Villeray, et Les vieux de la vieille qui, avec Jean Gabin et Noël, c'est un écrivain. Et donc cette ville de Jaligny décerne tous les ans le prix René Fallet, l'honneur de cet écrivain, mais ce prix est réservé à des auteurs de moins de 45 ans. Alors j'ai dépassé largement la limite d'âge, mais j'ai été heureux de recevoir l'un des autres prix qu'il décerne, ce prix Bourbonnais, le prix Daniel Bayon.
Heureux d'apprendre qui avait écrit La soupe aux choux. La soupe aux choux, un film qui est bien plus profond que ce qu'on peut imaginer.
Bien sûr. Ouais. Je vous encourage. Et le livre aussi, bien entendu.
Ouais, je vous encourage à regarder le film avec intérêt. Réfléchissez bien aux thématiques. C'est bien plus profond que ce qu'on pense. Votre prochain roman, ce sera pour Londres. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer prochainement? Où est-ce qu'on peut trouver vos livres?
Alors, dans la Creuse, prochainement, samedi, je serai à Guéret, au centre Leclerc. Et le dimanche prochain, je serai à Gargilès, le petit village de l'Indre, mais dans une boucle de la Creuse, où l'amant de George Sand avait offert, avait offert une maison à cet écrivain. Les livres, eh bien, dans la Creuse, en tout cas, on les trouve un peu partout. Ils seront bien sûr au centre Leclerc. Ils sont à la Souterraine. Ils sont dans tous les petits points presse de Bourg, à Auzance, à Felletin, à Aubusson, à Croix, à Mérinchal, à Chenerail, à Ain également. Enfin bon, à Chambon-sur-Voueize, ils sont un peu partout. On peut les trouver.
Comme vous venez de le dire, on vous croise régulièrement dans des séances de dédicaces, de signatures. De quoi discutent avec vous les Montluçonnais et les Creusois qui viennent vous voir ?
Eh bien, les Montluçonnais aiment entendre parler de et lire sur leur ville, sur Montluçon dans ces années-là, notamment les gens de mon âge qui aiment revoir leur jeunesse dans les bals de campagne. Et les Creusois aussi aiment entendre parler de leur région, aiment les descriptions de la région et aiment aussi entendre parler de la Creuse telle qu'elle fut à l'époque, même si la vision que j'en donne est un peu austère. Et surtout, ils aiment voir que la Creuse a évolué, est devenue une terre où les gens aiment vivre, finalement.
Jean-Claude Fournier, je rappelle que vous êtes écrivain, que vous avez publié un premier roman, Le Prince débarqué Salon, en 2013, un second roman, Hollywood sur chair, en 2015, et les deux aux éditions Marivol, dans la collection des années 60. Merci à vous d'être venu à nos micros, nous présenter votre travail d'écrivain, votre inspiration et votre univers.
C'est moi qui vous remercie.